le CELIF, le Salon des élus et décideurs des territoires d'Île-de-France, du 2 au 4 novembre 2021 au Paris Event Center, en partenariat avec Mairie Urba sur Radio Territoria.
Et oui, on continue notre découverte des acteurs du CELIF, le Salon des élus et décideurs des territoires d'Île-de-France. Et justement, quelqu'un qui représente une commune, et quelle commune, hein, il s'agit de Le Plessis-Robinson et Vallée-Sud-Grand Paris, puisque nous sommes avec Benoît Blot, maire adjoint de Plessis-Robinson, vice-président de Vallée-Sud-Grand Paris. Benoît Blot, bonjour. Merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de me donner la parole et bonjour à vos auditeurs.
Quels sont les contours de votre agglomération Vallée-Sud-Grand Paris? Ça existe déjà depuis 2016, mais tout le monde ne sait pas quels sont les contours. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus?
Donc Vallée-Sud-Grand Paris, ça porte le nom de territoire. En fait, c'est une agglomération. C'est 11 villes qui se regroupent pour mettre ensemble certaines compétences et surtout pour bénéficier d'une sorte de boîte à outils commune qui nous permet d'avoir de meilleurs outils. Donc ça part des périphériques, si vous voulez. Ça part de Montrouge et de Malakoff. Et au sud, c'est la frontière des Hauts-de-Seine. Et au sud, ça va jusque donc l'Essonne, ça va jusqu'à Antony, Châtenay. Et à l'ouest, ça va jusqu'à Clamart. Voilà, 11 villes. Les maires ne veulent pas du tout perdre des responsabilités. C'est simplement une très grande boîte à outils, très performante, qui permet aux maires de faire encore mieux pour leurs habitants.
Alors, vous avez une mission formidable, puisque vous êtes spécialisé sur le développement durable. Comment il se décline dans votre agglomération ?
Donc, en fait, le développement durable, je m'en occupe surtout pour la ville. Donc, le développement durable, c'est une compétence très horizontale, parce que maintenant, il s'est insinué partout. Tous les gestes, partout dans tous les services, on doit faire du développement durable, que ce soit à la voirie pour avoir des conceptions et des réalisations de voirie beaucoup plus innovantes, dans les bâtiments, dans les véhicules, mais aussi associer la population au développement durable, puisque nous, notre vision, c'est un développement durable positif, sympathique, enthousiasmant, où les gens ne sont pas contraints, mais volontairement s'associent. Et contrairement à ce que j'entends parfois, la population, une très grande partie de la population a envie de participer. Donc nous, c'est un développement durable sympa, où on travaille ensemble et sur le long terme, et donc au territoire. Donc je m'occupe surtout de la gestion des déchets, et aussi du plan hydrogène. Et pareillement, il n'est pas question de dire que la fin du monde est pour demain. On est plutôt à expliquer aux gens que c'est compliqué, et donc que les déchets, c'est vraiment énorme, et qu'on va finir par crouler sous les déchets si on ne fait rien, mais qu'on peut faire ça de manière sympathique, enthousiasmante et ensemble.
On y revient dans un instant, mais parlons d'abord du plan vélo. Hein. On en a beaucoup parlé à Paris. Anne Hidalgo en a fait le fer de lance de sa politique, mais ça existe au Plessis-Robinson également. Comment ça se
passe ?
Alors,
ça existe, mais ce n'est pas du tout la même chose qu'avec Madame le maire de Paris. En effet, nous, on n'est pas contre la voiture. Nous, on est pour que tout le monde vive ensemble. Donc, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on pourrait supprimer des places de stationnement et supprimer des voies de circulation. On créerait juste de la gêne pour les automobilistes et ça ne serait pas très, très durable. Donc, nous, on veut faire un plan de développement durable vélo, mais qui dure dans le temps. Donc, on va faire des gros investissements. On va créer, avec l'aide du territoire, des voies, une voie promenade et une voie vélo rapide, hein, parce que c'est deux manières totalement différentes de faire du vélo. Et on va faire que les vélos soient en sécurité, parce qu'on a bien conscience que maintenant le vélo c'est devenu un vrai outil de transport et un vrai outil de mobilité, mais néanmoins c'est pas contre la voiture, c'est ensemble, donc des vélos en sécurité, mais aussi des vélos qui respectent le code de la route, parce que chacun peut voir que c'est hélas pas toujours le cas, et donc c'est un peu plus long parce qu'on fait des choses durables et pour longtemps, mais ça va démarrer des vraies pistes dédiées au vélo, et avec des vrais espaces.
Si on parle de déchets, quelles sont les innovations que vous avez mises en œuvre dans votre agglomération ?
Donc là, c'est pareil au niveau des déchets. Donc il y a deux gros points noirs. Le premier, c'est les usines d'incinération. Aujourd'hui, personne ne veut d'usine d'incinération à côté de chez lui. Donc il va falloir trouver un moyen de diminuer les déchets qu'on envoie aux usines d'incinération. Le premier moyen, c'est d'enlever de la collecte des déchets, certains déchets. Notamment, on parle beaucoup des biodéchets, en fait, des déchets alimentaires. Donc nous, on a commencé pour le territoire Vallée-Sud-Grand Paris, en général, et pour la ville du Plessis-Robinson en particulier, par équiper les écoles. Parce qu'on sait que les enfants, sont très prescripteurs auprès des parents. Donc on a commencé à faire les écoles. Et là, pour le territoire, on a fait un premier quartier au Plessis-Robinson pour collecter les biodéchets de manière différenciée par rapport à la collecte des ordures ménagères. Et surtout, on n'a pas rajouté une collecte, on n'a pas rajouté des camions en plus. On a supprimé une collecte d'ordures ménagères pour la remplacer par une collecte de biodéchets sur un quartier de 1000 habitants, à la fois du collectif et du pavillonnaire. J'en profite pour remercier les Robinsonnais qui ont été particulièrement actifs et particulièrement preneurs de ce projet. Mais donc, comme vous le savez, normalement, la collecte des biodéchets doit être généralisée pour le 1er janvier 2024. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que Vallée-Sud Grand Paris, comme les autres collectivités ou les autres villes, commencent à se mettre en place. Par contre, j'aimerais bien que l'État, au lieu de mettre en cause systématiquement les collectivités, pousse les industriels à créer des usines, des zones de recyclage, des zones de méthanisation des biodéchets. Parce qu'aujourd'hui, les villes se mettent en place, mais par contre, au niveau traitement de ces déchets-là, on n'est pas prêt. C'est dans 2 ans. Donc si les terrains ne sont pas achetés et que les permis de construire pour ces unités ne sont pas déposés, ils ne seront pas prêts. Donc on fera comme on a vu dans un reportage il n'y a pas longtemps à la télé, c'est-à-dire que les riverains et les habitants, ils font le tri, et à la fin, ça finit dans le même camion. Donc si les opérateurs... Et puis finalement, ça va à l'usine d'incinération. Donc si aujourd'hui, il n'y a pas un effort fait au niveau des opérateurs, de ceux qui doivent traiter ces biodéchets, eh ben, à la fin, on demandera à la population et au territoire et aux villes d'investir pour mettre en place cette collecte. Et à la fin, ces déchets ils finiront à l'usine d'incinération. Donc, c'est quand même pas normal.
Quand on parle de développement durable, il y a des sujets plus ou moins faciles, surtout pour entraîner tout le monde avec soi. Les déchets, c'est important, mais c'est un sujet compliqué. Le projet hydrogène que vous mettez en œuvre, est-ce que vous pouvez en parler ? Peut-être que ça suscite un enthousiasme. Certains disent que c'est l'Eldorado pour l'énergie du futur.
Alors, je voudrais juste reprendre une chose. Hein. Ouais. Les déchets, ça intéresse beaucoup de monde. On fait par exemple une des opérations Famille Zéro Déchet. Et il y a beaucoup de familles, il y a des centaines de familles qui s'inscrivent. Les gens maintenant sont intéressés par ça. Ce n'est pas forcément une punition, le tri, bien au contraire. Je pense que la population a bien compris maintenant qu'on doit faire le tri. Beaucoup de gens sont très positifs sur le sujet. L'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est sûr que c'est aux collectivités territoriales d'engager le mouvement pour que les autres, après, petit à petit, tout le monde nous suive. Donc aujourd'hui, au niveau de l'hydrogène, il y a 2 choses. Il y a produire l'hydrogène et utiliser l'hydrogène. Savoir qu'aujourd'hui, 95% de l'hydrogène qui est produit à partir c'est produit à partir du pétrole, en fait. Donc, ça n'a aucun intérêt. À quoi bon utiliser du pétrole pour faire de l'hydrogène, puis après utiliser cet hydrogène, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est les nouvelles méthodes qui viennent de se mettre en place, c'est l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire on met beaucoup d'électricité dans de l'eau, et ça casse les molécules d'eau et on obtient de l'hydrogène. Donc, pour être sûr que l'hydrogène qu'on va utiliser soit vert, au niveau de Vallée-Sud Grand Paris et des communes qui le composent, on va déployer 2 unités de production d'hydrogène. Comme ça, on sera sûr et certain que notre hydrogène est produit à partir de l'électricité. Et après, donc une fois qu'on a produit cet hydrogène, il faut l'utiliser. Donc, pour l'utiliser, il faut des véhicules. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique. C'est exactement la même chose qu'un véhicule électrique, simplement... les batteries sont remplacées par des réservoirs d'hydrogène et une pile à combustible qui, en fait, transforme l'hydrogène en électricité. Sinon, les véhicules sont les mêmes que les véhicules à batterie. Malheureusement, aujourd'hui encore, le rendement pour obtenir de l'hydrogène à partir d'électricité est très faible. Donc, c'est 30%. Donc, ça veut dire qu'en fait, on ne récupère au niveau du véhicule que 30% de l'électricité qu'on a pris pour produire l'hydrogène. Donc, pour les véhicules légers, à mon avis, ce n'est pas encore assez performant. Par contre, pour les véhicules lourds, comme les bennes à ordures, comme les bus, qui sont des véhicules qui tournent en rond dans nos villes, qui s'arrêtent, qui redémarrent, qui consomment énormément d'énergie, là, ça devient intéressant parce que les batteries, c'est très lourd, c'est compliqué à construire, c'est compliqué à déconstruire, c'est compliqué à recharger, alors qu'avec l'hydrogène, c'est beaucoup plus souple. Donc nous, au niveau de Vallée-Sud Grand Paris, on est engagé dans un programme, dans un premier temps, pour les bennes à ordures et les bus, et peut-être quelques véhicules... avec les villes pour que tout le monde se mette à peu près à niveau. Mais on a l'espoir qu'au 1er janvier 2024, on ait des bennes à ordures à hydrogène. C'est quand même des véhicules qui tournent le plus dans nos villes. Hein. Donc ça a l'air d'être un détail, c'est pas du tout un détail. Et puis aussi qu'on ait une ligne de bus en collaboration avec Île-de-France Mobilité et la RATP, qu'on ait une deux lignes de bus qui marchent avec des bus à hydrogène.
Alors, des technologies innovantes, et notamment sur l'énergie, il y en a fort heureusement. En termes de budget, elles sont douces ?
Alors, les budgets sont importants. Ça, c'est clair, parce que c'est des petites séries. Donc, un véhicule à hydrogène aujourd'hui, il est plus cher qu'un véhicule, beaucoup plus cher qu'un véhicule diesel et un peu plus cher qu'un véhicule électrique. Mais néanmoins, il y a 20 ans, les véhicules électriques, c'était beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Et pourtant, parce que des collectivités ou des communes ont investi à l'époque, ça a lancé le mouvement. D'autre part, vous savez qu'avec le plan de relance et l'Europe, il y a une grosse enveloppe sur l'hydrogène. Donc, bien sûr qu'on compte bien se faire financer. Déjà, on a déposé des dossiers à l'ADEME et puis aussi au niveau de l'Europe. Et de faire qu'en fait, la différence de prix par rapport à si on avait acheté des équipements diesel soit absorbée par les financements qu'on va nous donner.
Alors, pour ceux qui n'ont pas pu se rendre au CELIF, qu'est-ce que vous avez vu d'innovant ? Qu'est-ce qui a attiré votre attention depuis que vous êtes arrivé ce matin ?
Donc, c'est ouvert que de ce matin, donc je n'ai pas pu tout voir. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses qui sont à la fois innovantes et de terrain. Par exemple, les points de fraîcheur dans les villes, pour éviter que les gens nous ouvrent les bornes à incendie, ça m'a paru très intéressant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand ils ouvrent des bornes à incendie, ben on leur met des amendes et des verbalisations. Mais moi, j'aime bien qu'avec le bâton, il y a aussi, entre guillemets, la carotte. Et là, si on crée des bornes de fraîcheur, plus besoin d'ouvrir les bornes à incendie, ça m'a paru intéressant. Il y a aussi un logiciel là, qui permet de complètement digitaliser tout ce qu'il y a autour du plan local d'urbanisme, les déclarations d'urbanisme, qui m'a paru intéressant. Et puis, il y a aussi la location de vélos électriques, un peu en marge de Vélib, mais quelque chose de plus intéressant, à mon avis, et qui m'a intéressé ce matin. Mais encore une fois, je n'ai pas encore eu le temps de faire le tour de tous les stands.
Merci de nous faire ce petit instantané pour ce début du salon. Ça vient de commencer. Merci, Benoît Hablot, de nous avoir rendu visite. Vous êtes à la fois vice-président de Vallée Sud Grand Paris, maire adjoint du Plessis Robinson. Très intéressant de vous entendre sur ces sujets de développement durable. Parce qu'en ce moment, une dernière petite question quand même. Il y a la COP26 qui se déroule. Les grands de ce monde se penchent sur les mêmes sujets que vous, en ce sens de comment protéger la planète en développement durable. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe là-bas ?
Ben moi, je n'ai pas forcément un regard uniquement positif parce qu'il y a beaucoup de grandes déclarations, beaucoup de grandes théories. Et puis en plus, c'est un peu dans une ambiance de fin du monde. Je trouve que voilà, il n'y a pas assez de pratique, pas assez de terrain. Et je conteste quand on dit souvent qu'on n'a rien fait, que les élus n'ont rien fait. Ce n'est pas vrai. Ça fait très longtemps qu'on est investi pour le bien-vivre des habitants, nous, les élus du terrain. Et deuxième point, moi, les habitants à la fois du Plessis-Robinson que je connais très bien et du territoire que je commence à connaître, ils sont plutôt tous enthousiastes, ils demandent qu'à aider, mais il n'y a pas besoin de leur faire peur ou de leur faire les gros yeux, c'est plutôt leur dire que c'est sympa, facile, qu'on va le faire ensemble et qu'ils vivront mieux après. Donc ça me paraît très important. Avant de vous quitter, je voulais quand même vous dire un petit mot sur la sécurité. C'est vrai aussi que c'est un vrai problème dans nos communes, notamment dans la zone périurbaine de région parisienne. Et on veille vraiment, les maires veillent vraiment, notamment au Plessis-Robinson, mais dans les communes autour, aussi à maintenir le bien vivre ensemble et à ne rien lâcher.
Merci beaucoup. Et oui, la politique, ça peut être concret, comme nous le disent les élus au Salon des élus et décideurs des territoires d'Île-de-France. Nous sommes au CELIF et c'était Benoît Blot, le maire adjoint du Plessis-Robinson. Merci. Au revoir.
Le CELIF, le Salon des élus et décideurs des territoires d'Île-de-France, du 2 au 4 novembre 2021 au Paris Event Center, en partenariat avec Mairie Urba sur Radio Territoria.